Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Le sens de la fête, un podcast de Christophe Payet pour Nick, la radio.
La nuit, tous les chats sont gris. A-t-on déjà énoncé une plus grosse bêtise ? À la lumière du stroboscope, les chats deviennent roses, bleus, verts, violets, arc-en-ciel. La nuit est un nuancier infini, une galerie de portraits, de singularités. Un monde où les costumes anthracites tombent et où les personnalités explosent. Si la fête est toujours l'expression d'une culture ou d'une époque, elle a aussi quelque chose de profondément universel. Partir à la recherche du sens de la fête, c'est se demander en chemin ce qui nous lie en tant qu'humains. Dans cette troisième saison du podcast Le Sens de la Fête, en collaboration avec Villa Schweppes, on explore la teuf avec celles et ceux qui la font ou qui l'ont faite.
On vit une histoire et finalement, ce qui se passe sur scène, c'est nul. Mais ce qui se passe dans le public, c'est là que ça se passe. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire, une énergie. Enfin, j'en ai encore les poils qui se dressent aujourd'hui. Et c'est là que je me dis, ah ouais, c'est répétitif, mais il se passe quelque chose.
L'invité d'aujourd'hui est un invité un peu spécial. Et cet invité d'ailleurs n'est pas venu tout seul, puisque c'est tout un festival que j'accueille en plateau. C'est même 20 ans de festival. Un festival qui a placé Lyon sur la carte européenne des musiques électroniques et de la fête. Les Nuits Sonores qui ont soufflé cette année leurs 20 bougies. Un anniversaire qui sera bientôt célébré par l'association organisatrice Artifarty avec une série exceptionnelle de 10 épisodes de podcast. 10 podcasts pour retracer 20 ans de musique à Lyon, 20 ans d'aventure festive. En attendant de pouvoir se plonger prochainement dans cette fresque et cette épopée du dancefloor, le sens de la fête s'est rendu à Lyon pour un enregistrement en public à l'invitation d'Artifarty et de l'association Dimara. Pour explorer le sens de la fête des Nuits Sonores, j'ai reçu son directeur artistique, Pierre-Marie Houlion, connu aussi sous son nom de DJ, Pimps, moitié des Chetan Brothers et membre du collectif Fury, organisateur également du Maquis électronique à Abidjan. C'était la première édition du festival Podcast Hotel, qui s'est tenu à deux pas du sucre, le mythique club lyonnais, lui aussi porté par Artifarty. Sens de la fête en public, spécial 20 ans des Nuits Sonores, c'est parti. Pierre-Marie, bonjour.
Bonjour.
La dernière fois que tu as fait la fête, c'était quand ?
La dernière fois que j'ai fait la fête, waouh ! C'est un sujet compliqué parce que pour moi, la fête, c'est à la fois mon métier, c'est à la fois être professionnel et quand on est professionnel, on ne la fait pas de la même manière. Mais la dernière fois, c'était au Sucre, mardi dernier. Laurent Garnier est venu faire un petit entraînement, un petit échauffement avant de reprendre ses dates après une longue période d'absence. Et oui, c'est là la dernière fois que j'ai fait la fête.
Alors, est-ce que ça veut dire que quand toi, tu travailles, quand tu es en plein Festival des Nuits Sonores, par exemple, est-ce que c'est que du boulot ou est-ce que tu t'amuses, tu fais la fête quand même ? Où se situe la frontière pour toi ?
Bah, c'est un peu compliqué parce que à la fois je suis une sorte d'expert, de scientifique de la fête et quand je suis pendant Nuits Sonores, je travaille et donc je vois le résultat de l'expérience. On est parti d'une problématique, on a choisi les artistes, le temps, l'espace, les lieux et on voit ce qui se passe et on est plutôt en observateur de voir effectivement est-ce que l'expérience de fête qu'on propose, elle fonctionne ou non. Donc on peut pas être à la fois observateur et acteur finalement de la fête. Généralement on la fait à la fin, à la toute fin, mais on se situe plutôt à ce niveau-là, quoi. On est vraiment des instigateurs, Oui, des experts, je dirais.
D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire faire la fête pour toi? Comment tu la définirais, cette fête? Est-ce que c'est forcément le dance floor, ou est-ce que ça peut être aussi un dîner entre potes, par exemple?
Effectivement, la fête a plusieurs visages. La fête techno est une fête très spécifique, et c'en est une parmi d'autres. La fête techno, elle est très intéressante puisque la musique techno issue des musiques électroniques amène une fête qui est un moment, on va dire, quasi anthropologique, sociologique. Les gens investissent un dance floor, sont à la fois tout seuls et tous ensemble et quelque part se créent leur identité via ce moment-là. Parce que bon, on pourrait dire que la fête, c'est la convivialité, finalement, c'est la folie. Mais la fête techno est très spécifique puisque c'est un moment de, à la fois de communion, mais aussi de création identitaire, enfin de comment on s'émancipe finalement. La fête, c'est pour moi un moment de culture, un moment de culture artistique, et c'est un moment de dialogue où les rôles s'inversent. Le carnaval est une fête très intéressante. On prend le pouvoir, c'est un moment d'empowerment, c'est un moment d'égalité, de liberté. Dans cette liberté, il y a d'autonomie un peu politique. C'est un moment très fort.
Alors, pour en arriver à construire la fête comme ça, et la fête techno en l'occurrence, en tout cas un festival en tant que fête, on va revenir un peu aux origines, à la genèse, que je fais toujours dans cette émission. Toi, comment tu es arrivé là? Et du coup, si on repart au tout début, est-ce que tu peux nous raconter dans quel milieu tu as grandi? Est-ce qu'on faisait la fête chez toi quand tu étais petit? Est-ce que c'est quelque chose qu'on t'a inculqué?
Non. Alors, ce qui est assez étrange, c'est que je viens d'un milieu où la musique était très importante. On l'écoutait pas, mais on la faisait. On était plutôt des musiciens dans ma famille. Moi, j'ai fait du saxophone pendant très longtemps, et j'ai découvert à l'adolescence vraiment le free jazz, l'improvisation. Donc je viens plutôt de ce milieu-là. Et puis j'ai fait des rencontres. Une rencontre dans mon adolescence de quelqu'un qui mixait, qui scratchait chez lui, qui m'a fait découvrir le hip-hop des années 90. Et après, par rebond, fin des années 90, début des années 2000, sur un peu l'innovation dans le hip-hop qui a amené notamment le label Ninja Tune, le sampling, le copier-coller, qu'on appelait ça, et le hip-hop électronique, l'abstract hip-hop. Et du abstract hip-hop, je suis passé à Aphex Twin. Cette notion très expérimentale à la jungle, je dirais que c'est là-dedans que j'ai commencé à découvrir la teuf, la fête. Ma première fête, c'est DJ Scruff à La Marquise à Lyon. Ça a été un moment très fort pour moi. Donc, c'était un DJ qui était capable à la fois d'un mélange d'influences totalement, qui allait de la salsa au hip-hop, au jazz, à la jungle. Et c'est comme ça que j'ai découvert en fait ce milieu-là.
T'as quel âge à ce moment-là?
À ce moment-là, je dois avoir 18, 19 ans, quoi. J'ai découvert qu'on pouvait faire la fête là-dessus, quoi. Et ça, c'était génial.
Ouais, avant ça, t'avais aucune attirance particulière pour l'univers du club, une fascination, rien du tout, quoi.
Non, pour moi, le club, c'était la boîte de nuit où on allait boire des coups, écouter des tubes, quoi. Et donc, j'avais pas non plus une obédience pour ça. Par contre, quand j'ai découvert le club, quand je suis allé voir Mr. Scruff, c'était dans un club, à La Marquise, qui avait une vraie programmation. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait une différence et qu'on pouvait faire la fête autrement qu'avec ces codes de la boîte de nuit. Et qu'il y avait une fête intelligente, finalement. Quand j'ai découvert ce qu'on appelait la brand dance, oui, ça génial, hein. Donc c'était Aphex Twin un peu qui a créé ça, qu'on pouvait danser sur des trucs hyper complexes, hyper déstructurés, et finalement j'ai découvert qu'il y avait une autre fête aussi.
Donc ça, c'est ce premier club, finalement, c'est un choc esthétique, un choc
culturel, quoi.
Culturel, enfin, en tout cas.
Ouais, ouais.
Comment, à partir de là, à partir de cette première expérience du club, on arrive à Nuit Sonore en tant que programmateur? Qu'est-ce qui se passe? Comment
j'arrive à Nuit Sonore un peu sur un coup de bol. Donc, j'étais à la fac d'histoire, donc je me suis effectivement, comme tout jeune, naïf et utopiste, que la culture pourrait changer le monde. Donc je me suis dit, faut que je travaille là-dedans. Si j'ai envie de changer les choses, c'est là que ça se passe. Et pour entrer une formation qui était un IUP qui s'appelait Métier des Arts et de la Culture, il me demandait d'avoir de l'expérience professionnelle. Et un ami qui s'appelle Marc Cardonnel me parle de trois personnes qui organisent un festival, qui étaient à l'époque Fred Joly, Violaine Didier et Cécile Chaffard, qui organisent un festival qui s'appelle Artifarty. Et il me dit, je sais que t'aimes bien Aphex Twin, ce genre de truc, de plan. Écoute, elles font un truc entre art contemporain, musique électronique. Je pense que tu devrais les contacter. Elles décident de me prendre un peu sous leur aile. Et elles organisent vraiment un festival autour de cette idée d'art contemporain et de musique électronique, parce que finalement, elles sont issues de l'art contemporain. Enfin, elles démarrent début 20e avec les futuristes italiens, Luigi Russolo, le brutisme, et on découvre qu'en fait, finalement, c'est plutôt ces mouvements d'art contemporain qui ont conduit la musique électronique à exister telles qu'elles sont. Et donc, je travaille pour ce deuxième festival, donc je cherche des friches déjà, et il se trouve qu'au bout de 4 mois, elles me disent, écoute, là, on va peut-être faire pas Artifarty 2, mais on va faire un nouveau projet. Est-ce que t'es partant ? Et je décide là d'y aller à fond, et donc c'est là que se crée en fait cette équipe avec donc les filles d'Artifarty et Vincent Carry, Patrice Moore, Agoria à l'époque, José Lagarellos, donc toute une équipe en train de se créer. On crée Nuit Sonore en fait. Et moi, je suis stagiaire diffusion, je diffuse les tracts. Je parcours la France avec mes tracts, mes affiches. Donc à l'époque, il n'y a pas les réseaux sociaux, il n'y a pas beaucoup d'Internet. Hein. On fait encore des fax. Et donc, je vais prêcher la bonne parole pour ce festival un peu partout. Je me souviens, j'ai dormi sur des tas de fly plusieurs fois au fond de la voiture. Je suis allé à Lys, au Printemps de Bourges. Enfin, et je défendais bec et ongles ce festival. Et c'est vraiment au moment de Nuit Sonore que je découvre la techno, finalement, parce que je ne la connaissais pas avant. Et pour moi, c'était de la musique répétitive. Quoi.
Donc, OK, on peut arriver à Nuit Sonore, découvrir la techno à Nuit Sonore et devenir programmateur de Nuit Sonore.
Oui, parce que Nuit Sonore n'est pas que de la techno. Parce que Nuit Sonore est aussi un festival qui revendique cette création expérimentale, cette histoire avec l'art contemporain. C'est ce qu'on oublie souvent à propos de Nuit Sonore, c'est que Violaine Didier, qui a été la créatrice du festival et longtemps la programmatrice, elle était dans cette culture justement des individus qui ont changé un peu le monde de la culture par l'électronique. Elle avait une vision très large et finalement on était plutôt sur une forme d'underground qui essayait de les expérimentateurs finalement. Et la techno n'est qu'un mouvement dans les musiques électroniques. Alors il est très fort, il est très spécifique parce qu'il a ses codes, on a le mouvement des rêves, il y a l'appropriation du patrimoine industriel, mais l'appropriation du patrimoine industriel, on l'a aussi dans la musique indus allemande, Düsseldorf, Kraftwerk, et donc... Finalement, Nuit Sonore se veut un panorama de tout ça. Mais moi, je rentre pas par le côté techno. Je suis à l'Halle Tony Garnier, c'est la dernière soirée. Et là, je me souviendrai, c'est Félix Dauskat qui joue Vitalik, la rock. Et là, je suis sur scène, je suis sur le côté. Et là, je fais, il y a un truc qui se passe.
C'est répétitif, mais c'est quand même pas mal.
C'est pas mal. Oui, il se passe quelque chose. En fait, je suis complètement ébahi par cette énergie du public, finalement. Qui arrivent. Ils suivent les mouvements de la musique, il y a les montées, les descentes, on vit une histoire. Et finalement, ce qui se passe sur scène, c'est nul. Mais ce qui se passe dans le public, c'est là que ça se passe. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire, une énergie. Enfin, j'en ai encore les poils qui se dressent aujourd'hui. Et c'est là que je me dis, c'est répétitif, mais il se passe quelque chose.
Avant cette première édition de Nuit Sonore, Lyon, c'était pour le coup vraiment pas la capitale de la teuf. On non. parlait de Lyon comme la belle endormie. C'était pas la fiesta, quoi.
Alors, moi, je suis pas encore de cette génération-là, mais donc les plus anciens que je rencontre viennent du Senant, avec qui je discute. Enfin, ces gens qui me racontent l'histoire de la techno dans les années 90 ou de ce qui se passe à Lyon dans ces années-là me disent oui, effectivement, c'est pas la joie. Laurent Garnier joue dans des caves obscures pour 200 personnes. Moi, je m'intéresse plutôt à la partie concert et finalement, je me retrouve plus souvent à aller à Genève pour aller voir des concerts. Les tournées ne passent pas à Lyon. Alors à Lyon, il y avait des initiatives comme Grande Zéro, il y avait une culture noise, il y avait la MJC Perrache, pas loin, qui organisait énormément de choses. Il y avait des scènes alternatives où on pouvait retrouver des petits groupes américains en tournée sur des trucs assez improbables. Mais Lyon n'était jamais un passage obligé et souvent, les groupes passaient par Genève. Puis on disait que c'était un peu un mouroir pour les artistes. Tu ne pouvais pas rester à Lyon, tu devais forcément aller à Paris ou bouger à l'étranger. Ce n'est pas une ville qui était connue, en tout cas, pour ça. Enfin, faut savoir que Lyon, c'est une ville qui a une histoire très catholique, qui est très froide. Moi, en plus, quand je fais mes études, je rencontre beaucoup de communautés qui viennent de villes de France et qui me disent « à Lyon, c'est un peu, il ne se passe pas grand-chose ». Et effectivement, il y a ce côté un peu glacial, je dirais figé. Mais en rentrant dans cette équipe d'Artifarty, je me rends compte qu'en fait, il y a plein de petits activistes partout qui sont là depuis des années en disant « faut que ça bouge ». Enfin, et puis, je les rencontre en sortant, je vois qu'il y a plein d'initiatives. Il y a une histoire qui est prête à exploser, en tout cas.
Puis à l'époque, toi, tu es encore un peu jeune à ce moment-là, mais à l'époque, il y a encore la répression envers les musiques électroniques.
Oui, tu as Raymond Barre, notamment, qui n'a pas donné d'autorisation de fermeture tardive à des événements à l'Alto Ingardier Techno, qu'organisait notamment Vincent Carry. Il y a une répression de la techno, il y a l'arrêt Mariani...
Amendement Mariani, amendement anti-rave party déposé en 2001 par le député RPR Thierry Mariani et qui impose une déclaration préalable en préfecture.
Il y a une répression des raves, les bars ne ferment pas après 1h du matin, on voit que les cafés-concerts vivotent, on sent qu'effectivement il y a une... il y a une répression, on ne désire pas ce public, la techno c'est la drogue, tout ça...
Donc il y a un besoin du coup aussi, alors non seulement d'avoir une proposition artistique pour le public qui est peut-être en attente de ça à Lyon, mais aussi peut-être, est-ce qu'il y a à l'initiative de Nuit Sonore le besoin de légitimer cette musique aussi, et ces musiques ?
Bah évidemment, ce qui est intéressant, c'est que la première année de Nuit Sonore, finalement, l'événement le plus important, c'est quand on fait des événements sur l'espace public. La mairie dit « Ok, on veut un événement pour les jeunes, allez-y, on vous donne les autorisations ». Et là, ce jour-là, je découvre qu'en fait, il y a toute une génération qui est plus vieille que moi, qui a déjà 30 ans, qui est dans ces musiques depuis 10 ans. Et le fait de faire des musiques électroniques dans la rue, pour eux, ça a un rôle politique majeur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est une communauté qui a été mise un peu au banc de la ville, qui n'a pas le droit d'être, en fait, finalement, dans l'espace public. Et avec Nuit Sonore, elle se retrouve à pouvoir exister face à toute la société, finalement, et à dire, voilà, on a notre rôle, on est là, on existe, et on a le droit de citer. Et c'est là que Nuit Sonore aussi se construit comme un cheval de Troie politique, en disant, voilà, ces musiques, elles ont un intérêt. Et tout ce qu'on a fait dans Nuit Sonore, finalement, pendant ces 20 dernières années, c'était expliquer à la fois aux politiques qu'on était sur des esthétiques qui ont une histoire, qui ont un rôle dans la société, qui permettent une compréhension, notamment de l'espace urbain, complètement différente et qui sont complètement innovantes dans leur manière de penser. C'est une révolution musicale. Elle réunit la jeunesse, mais pas que. Elle permet, en tout cas, à la ville de se repenser aussi. Et Nuit Sonore, pendant 20 ans, ça a été un filtre sur la ville qui a amené une vision de Lyon complètement différente. Et je pense qu'il y a effectivement ce côté politique revendicatif du festival dès les premiers pas.
Ouais, ce qui est fou, c'est que quand on conçoit un festival comme ça, en fait, on est autant dans un travail de conception artistique que dans un travail politique, comme tu le dis, et politique aussi bien au sens noble de amener ces musiques-là dans la cité, d'aller sur la place publique, etc., que politique de il faut travailler avec les élus pour faire de la pédagogie, en fait, il faut aller convaincre, il faut aller frapper aux portes.
Exactement, c'est leur faire comprendre le rôle, l'histoire de ces musiques-là. Je dirais qu'en 20 ans de nuit sonore, on a amené des maires de la ville de Turin, on a amené des gens du Parlement européen. On leur a montré finalement ce que pouvait être et quel était le sens de nuit sonore. Enfin, leur montrer le rôle et finalement l'espace politique, l'espace de dialogue aussi que créaient ces musiques-là. Et ça, pour nous, c'était évidemment, et c'est toujours un combat encore actuellement pour les musiques électroniques, c'était les faire rentrer dans une forme de panthéon aussi un peu institutionnel, qu'elles rentrent dans ce cadre-là. Tout le travail qu'a fait le hip-hop dans les années 80 pour être reconnu comme une culture, enfin, on voit que ça a mis quand même 30 ou 40 ans, ben voilà, les musiques électroniques sont arrivées un peu dans le même mouvement, en disant, nous aussi, au-delà d'une musique, il y a des esthétiques, il y a des artistes, il y a des discours, il y a une ouverture. Et aujourd'hui, on voit que finalement, les musiques électroniques ont porté plein de messages. Les messages qui ont été créés ces 30 dernières années autour de la culture LGBT, QI+, la musique électronique a été au cœur de tout ça. Et il y a quelques politiques qui l'ont compris avant les autres. Et finalement, à Lyon, on a été un peu un des fers de lance, même en France, puisqu'à Paris, il n'y a pas eu de nuit sonore.
À Paris, il n'y a pas eu de nuit sonore. Mais alors justement, quand on lance un événement comme ça avec cette ambition-là, en France, même quand on est une grande ville comme Lyon, en France, on se pose toujours la question du positionnement par rapport à Paris, puisqu'on est un pays extrêmement centraliste, centralisateur. Comment on décide d'exister par rapport à la capitale ?
C'est vrai, quand on me parle de province à Paris, je suis toujours « oui, bien sûr ». C'est un point de vue très hautain sur le reste du monde, et effectivement, mais qui est issu de cette culture très centralisée. Mais finalement, la politique lyonnaise a été très pertinente à ce niveau-là. Ce qui a été fait ici, c'était plutôt de se positionner par rapport à l'Europe. Lyon, c'est une métropole européenne. Et finalement, on n'a pas à se comparer à Paris. On a plutôt à regarder ce que fait Barcelone, ce que fait Turin, ce que fait Genève, et se positionner dans cette relation-là. Et finalement, on a été dans le circuit Eurocities. On a épousé aussi avec Artifarty cette idée que l'Europe, finalement, et ce grand projet, était un peu notre terrain quoi, de jeu. Paris, du coup, est un peu satellisé dans cette option. Paris est une ville avec qui on a des relations, mais on n'est pas en train de se comparer à Paris. On est en train de dire comment on travaille avec Barcelone, comment on travaille avec Turin, comment on travaille avec toutes ces villes et comment on fait de nuit sonore un festival européen avant tout.
Ce qui est intéressant, c'est que alors, tout à l'heure, tu as très rapidement cité Agoria dans les personnes qui étaient là au départ hein, de Nuit Sonore, donc le producteur et DJ qui a joué un rôle important au démarrage du festival, qui est un peu un local de l'étape. Justement, dès le début, il y avait une volonté de s'ancrer aussi dans une scène locale, de faire exister, de faire vivre, de donner un écho à une scène locale. Et du coup, ma question, c'est un peu comment tu conjugues ça, c'est-à-dire à la fois s'ancrer dans une scène locale et en même temps avoir l'aspiration à être un événement européen.
On a très vite compris que Nuit Sonore pourrait être un festival un peu exceptionnel finalement si on arrivait à fédérer toutes les scènes lyonnaises. Il fallait savoir qu'à l'époque, il y avait Jarig Effect, le dub était très important, il y avait Agoria qui représentait une certaine scène, plutôt house, techno, il y avait B-Records qui représentait la scène Electronica. Et tout de suite, et je pense que ça a été l'intelligence de Vincent par rapport au projet, c'était dire, mais soit ce festival, soit on le co-construit avec la scène locale, soit on n'y arrivera pas. Soit on n'arrivera pas à faire un événement majeur. En tout cas, à Lyon, il faut fédérer. Parce qu'il y a tellement de gens frustrés, il y a tellement de gens qui n'ont pas eu le droit de citer. Il faut qu'on exprime la diversité. Et d'ailleurs, la baseline de Nuit Sonore, dès la première année, c'est panorama des musiques électroniques. Mais ce panorama, il est dans toute la scène locale. Et dès le début, on a notamment une nuit qui est dédiée à cette scène locale. Et on dit, attendons, c'est un projet, la ville est derrière nous, il faut qu'on en profite tous. Et la deuxième chose, l'échelle européenne, tout le monde a compris qu'aujourd'hui, on est dans l'Europe et finalement, la circulation des citoyens européens, elle est plus facile, des artistes aussi. Et il y a cette envie, il y a cette aspiration aussi, en tant qu'artiste à Lyon, d'aller jouer à Berlin, d'aller jouer en Angleterre, d'aller jouer en Espagne. Et finalement, on construit aussi Nuit Sonore un peu comme un focus sur la scène locale et un peu comme un booster de la scène locale. C'est faire rencontrer à la fois des artistes internationaux avec des artistes locaux et de mix justement avec ces artistes qui n'ont pas l'habitude de venir à Lyon, des Jeff Mills, des sets un peu les Kraftwerk, tout ça. Et c'est la base du festival finalement.
Et puis finalement, le festival arrive assez vite à vraiment, encore une fois, mettre Lyon sur la carte des musiques électroniques et des festivals en Europe. J'ai pu jeter une oreille en avant-première à la série de podcasts d'Artifarty sur les 20 ans des Nuits Sonores. Il y a un moment où Vincent Carry, donc, qui est le boss d'Artifarty et qui était directeur des Nuits Sonores jusqu'à cette année, il vient d'annoncer qu'il passait la main, mais il raconte... Pour lui, la bascule pour le festival, et c'est un moment, je sais pas si toi aussi tu t'en souviens, si ça a été aussi marquant pour toi, mais il raconte un set de Laurent Garnier en 2005, qui finit à 8h du matin, et il dit vraiment c'est le moment où le festival bascule. Qu'est-ce qui bascule dans le festival? Je sais pas si tu te souviens de ce moment-là, peut-être que...
Bien sûr, on s'en souvient tous. C'est très drôle que tu m'en parles. Bon, bah, je me doute, enfin, c'est un peu le moment de catharsis, c'est un peu l'image... forte du festival. On en parle très souvent, mais c'est drôle parce que je suis papa et j'ai un enfant qui a 5 ans et dans mon école, on a l'habitude entre parents d'élèves de boire les cafés le matin une fois qu'on a posé les quiz. Et là, hier, je tombe sur un gars, il me fait « Qu'est-ce que tu fais ?» Bah, je bosse un peu hallucinant et tout. Il me fait « Alors, moi, j'étais dans une équipe de vidéastes, c'était mon cousin qui m'avait appelé. » Parce qu'à l'époque, faut pas oublier qu'on monte ça quand même avec les copains. Dès le début, c'est hardcore. Hein. Moi, mes potes sont au catering, on fait les runs, on fait tout. Quoi. C'est artisanal, finalement. La ville est derrière, mais c'est artisanal et on essaye de monter quelque chose de fort. Et donc, je rencontre ce gars et il me dit « Ouais, alors moi, je me suis retrouvé à faire la vidéo sur Nuits Sonores en 2005. » Il me dit « Putain, je me souviens de ce moment incroyable quand... » il s'appelait Laurent Garnier joue, le soleil se lève, là. Voilà, il me dit « Il joue Smell Like Teen Spirits. » de Nirvana et là c'était ouf. Je fais oui bah t'étais là à ce moment là c'était un moment incroyable parce qu'à ce moment là on est à la fois dans la rave, à la fois on est dans une communion, on se dit mais voilà c'est 7h du mat, le soleil se lève sur les usines et on est je sais pas, on doit être 3-4 000 et on vit un moment à 4 000 comme si tu faisais une raclette avec des potes et que c'est ce qui se passait. Super, non, mais c'est un moment, tu vois, nous on va chercher le champagne dans les bars, on le distribue à tout le monde. Un moment d'amour, enfin, tu vois, de catharsis, on peut dire ça, qui est incroyable. Et ça nous marque à jamais. Pourquoi? Parce que ça fait partie de ces moments qui font que ça soude une équipe. C'est dur de monter un festival. Il y a beaucoup de gens qui craquent. Et ces moments-là, en plus, ce qui arrive à la fin du festival, quand toute l'équipe, on était tous sur scène, c'est des moments qui nous relancent finalement pour une année. On se dit, ouais, on en a chié, mais c'est beau, quoi, tu vois. Enfin, les gens, il se passe quelque chose, on leur fait vivre une sacrée teuf. Ils ne vivront pas deux fois. Il y a cette relation avec Laurent Garnier qui naît à ce moment-là, qui est forte avec finalement un des acteurs majeurs de la revendication de ces musiques électroniques, un pionnier, quoi. Là, ce jour-là, l'histoire se crée.
Pionnier et Laurent Garnier est la raclette des Nuits Sonores, quoi, clairement.
Qui... Non. Ouais.
Mais c'est bien de rappeler que la raclette est une vraie fête aussi.
Non, c'est rappelé.
On dit pas assez.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est, si tu veux, tu fais la fête aussi, je suppose. Et quand tu es dans une fête où il y a. Moi, par exemple, c'est vrai qu'avec le temps, j'ai beaucoup de mal à être dans des jauges importantes, quoi. Quand tu es 5, 6 000, tu sais plus qui t'es finalement dans le groupe. Mais là, t'avais l'impression que c'était 3000 potes qui étaient en train de s'embrasser. Enfin, c'était le... Enfin, voilà. Alors, je prends des exemples qui sont les codes de la fête, le Nouvel An, la raclette, enfin, la convivialité, finalement.
Non, mais ouais.
Mais finalement, mais poussé dans... On était dans une autre dimension, quoi. C'était... C'est là où c'est la force des musiques électroniques, d'ailleurs. C'est le mec est en train de passer Nirvana. On parle du pionnier de la techno. Parce que, finalement... À un moment, on emmène les gens dans un voyage et on leur parle de leur génération, de ce qui se passe dans la société, le grunge, tout ça. Et à la fois, un DJ, c'est aussi quelqu'un qui est là pour que les gens discutent entre eux, se parlent. Et à un moment, il sent qu'il faut mettre Smell Like Teen Spirits. Et il le sent au bon moment, juste au moment parfait. Finalement, c'est un grand ordonnateur de ce qui se passe. Et c'était de la perfection.
Puisque tu parles justement et de ce pouvoir que peut avoir la fête, et en l'occurrence là, la fête avec les musiques électroniques, pour créer une communion avec finalement un groupe énorme, où normalement, et où on ne connaît personne, où normalement il ne devrait pas y avoir naturellement ce partage, cette communion, ce truc. Comment ça se crée ça? Je crois qu'en parallèle justement de toi, ta prise de fonction entre guillemets comme programmateur du sonore, tu faisais un mémoire sur les musiques électroniques, sur la techno.
Ouais, j'ai travaillé un peu sur ce processus de création. Donc je fais un rewind, je suis sur scène, je vois la rock, Vitalik, je me dis qu'est-ce qui se passe? Et je fais encore mes études à l'époque. Et je suis en fac d'anthropologie et mon maître de mémoire me dit « Ouais, il y a quelque chose à creuser là-dedans. » Et donc, à l'époque, je m'intéresse aussi à l'histoire des musiques électroniques, comment elles sont nées, donc les futuristes italiens, le dub play, tout ça, et comprendre c'est quoi cette révolution, finalement. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, j'ai plutôt essayé d'associer ça avec les arts numériques et l'art contemporain. On n'est plus sur un support, on est sur une idée. Et finalement, on est sur un processus. Et quel est le processus de création qu'il y a là-dedans? Puisqu'on a quelqu'un sur scène, on le regarde, mais il fait rien. Enfin, voilà, on sort de la question du musicien virtuose. Et là, on est sur un DJ qui appuie sur des boutons et donc qui opère sur une machine. On a ce rapport aussi à la machine. Quel est son rôle dans ce processus? Et ce nouveau processus de création, il est hyper intéressant parce que finalement, si on le regarde sous l'angle de, à la fois de l'histoire de l'art et d'une certaine anthropologie, finalement, on s'aperçoit que dans ce courant postmoderniste, il correspond à quelque chose de l'art contextuel. Finalement, ce qui est important, artistiquement, c'est le contexte. C'est pas le travail qui a été fait en amont, c'est pas de regarder ce qui se passe, mais c'est le contexte. C'est une histoire d'espace-temps et c'est une histoire, finalement, de ce qu'on Nicolas Bourriaud appelait l'esthétique relationnelle. Finalement, le moment artistique qui va se passer, le moment où le public va investir la chose. Et donc la techno, parallèlement à l'art contemporain, correspond exactement à cette définition. Et on est dans une esthétique relationnelle, c'est-à-dire qu'un DJ qui joue dans une salle vide, il ne se passe rien, même s'il y a trois personnes. Finalement, c'est le public, dans sa manière d'investir aussi la scène, le fait de danser de manière non codifiée. Il n'y a pas forcément de code de danse en plus. C'est plutôt comment tu investis l'espace, comment tu communiques avec les autres, du fait d'être tout seul, mais aussi tous ensemble. Tu fais partie d'une communauté, mais en même temps, tu es dans une forme de transe solitaire en construction. Et il y a ce côté un peu espace d'autonomie temporaire que tu te crées en te disant on est dans un lieu qui n'est pas fait pour, on est là, on vit une expérience. Tu es avec tes potes, tu es en train de vivre quelque chose très fort, c'était déjà arrivé, je suis sûr, d'être au milieu de 25 000 personnes, vivre un truc tout seul très fort, mais d'être à côté de tes potes quand même, et de faire dos au DJ, finalement, de ne pas regarder la scène, parce que finalement, tu peux passer une heure, deux heures, et c'est la révolution de la techno. Et finalement, le DJ, lui, va opérer des choses pour que se crée la chose sur le dance floor, que les gens se parlent, les gens dansent, les gens développent une certaine énergie, quoi. Et c'est là que c'est intéressant, parce que ça rejoint des notions, effectivement, de beaucoup d'artistes qui se sont posés la question. On a beaucoup d'œuvres qui, finalement, n'existent que quand le public est rentré dans la salle ou a eu contact avec l'œuvre. Et suivant ce qu'il en fait, c'est le public qui fait ce qui va se passer.
C'est là où on rejoint ce qu'on racontait de la communion devant Laurent Garnier. En fait, là où ça se passe, c'est dans le public et c'est le public qui crée l'œuvre. Et le dance floor, du coup, ce qui est hyper intéressant dans ce que tu racontes, c'est que le dance floor, c'est à la fois un espace où tout d'un coup je peux agir, être acteur de quelque chose, tout en étant complètement fondu dans la masse et en étant totalement anonyme finalement. Il y a une espèce de contradiction fondamentale. Ou est-ce que c'est l'anonymat justement qui me permet de tout d'un coup de, de devenir acteur et de m'exprimer pleinement.
Il y a effectivement cette notion du tout seul et tous ensemble qui est à la fois puissante et complexe à comprendre, hein, qui est effectivement de se dire à la fois j'ai une zone d'autonomie seule, je vis quand même quelque chose de manière très, très individualiste, et finalement dans ce geste individualiste il fonctionne si je suis en communauté. Si je peux le partager au bout d'un moment. Ça arrive souvent, tu vas écouter, tu vas danser. Alors pendant 3 minutes, tu vas être dans un... t'es dans ton... On est dans la bulle. On dit souvent, t'étais dans ton truc. Ouais, j'étais à fond, j'étais devant. Ça se dit souvent. Et en même temps, ça fonctionne que si à un moment, tu retrouves ton groupe d'amis et que tu te dis, t'as toujours ce rôle d'être dans le groupe.
Ouais, ou juste un petit regard, voilà. T'es dans ta bulle, tu jettes un regard, tu ressens ta bulle, tu vois que tu partages ça, puis tu te remets dedans.
C'est exactement ça, c'est tout seul et tous ensemble. Et anthropologiquement, c'est assez intéressant, parce que c'est très lié à la techno, quoi. Enfin, tu vois, je dis la techno, sens très large du terme, mais à cette notion de dance floor en tout cas.
Il y a un élément qui est hyper important aussi dans l'approche conceptuelle et politique de Nuit Sonore, c'est de dépolariser. La musique, je crois, de s'intéresser énormément au sud, au pluriel, de s'intéresser à ces territoires un peu d'intersection, d'échanges musicaux, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de la programmation.
Je pense qu'après une époque où le premier âge de Nuit Sonore finalement était de raconter cette histoire qui est née en Allemagne, Düsseldorf, aux États-Unis, Détroit, qui est née dans plein de bassins, qui est une histoire finalement très occidentale, qui est liée à l'art contemporain. Ce qui m'a apporté, moi, beaucoup dans mon travail, ça a été de comprendre aussi comment cette révolution l'a infusé le monde. Et c'est vrai que les années 80 sont très intéressantes pour ça, parce que finalement, l'introduction du synthétiseur, on voit que ça a eu un impact mondial, que ce soit au Liban avec les frères Rabbani, en Inde avec Charanjit Singh, qui crée en 82 le premier, finalement, album d'acide. Comment aussi est interprétée cette révolution technologique, mais aussi cette révolution de processus de création. Je pense que ce qui fait aussi la spécificité de Nuit Sonore, c'est ce dialogue qu'on a créé entre finalement les nords et les suds sur le fait que cette histoire très, très occidentale, on a des DJ américains, des artistes japonais, allemands, anglais, on s'aperçoit que les problématiques et la culture musicale des suds, la musique traditionnelle, elle est complètement revisitée. Et comment on crée une vraie innovation ? Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est comment est revisitée la scène mexicaine, latine, et comment ils retranscrivent finalement toute cette electronica, toute cette complexité, toute cette musique expérimentale. Et on voit qu'il y a un potentiel et un patrimoine qui demande qu'à être coupé, collé, revisité, comme l'a été finalement les musiques électroniques. Elles viennent finalement du disco, la musique dance floor, j'entends. Et voilà, c'est du funk, de la disco, c'est de la musique industrielle de l'autre côté. On met ça tous ensemble, on découpe. Et là, quand on va s'intéresser à la musique circulaire au Sénégal et dire finalement le côté sériel est très intéressant, et comment aujourd'hui plein de groupes revisitent ça, l'Afrique du Sud. C'est des révolutions après révolutions, et comment justement ils ont ce patrimoine très spécifique qu'ils revisitent. Et donc je pense que là, et ce qui nous a beaucoup aidé aussi, c'est le fait de travailler avec le sucre. Je pense qu'aujourd'hui, la force de Nuit Sonore de ces 10 dernières années, elle est liée au fait qu'on ait un lieu permanent où on puisse travailler au quotidien. Finalement, on puisse expérimenter des choses et on puisse travailler des sujets de fond, et que Nuit Sonore finalement soit le résultat de ce travail qui a été fait au sucre.
Ouais, c'est-à-dire que tu as le club qui est la permanence, et le festival qui est le moment, le temps fort finalement. Toi, d'ailleurs, quand tu fais la fête, à titre personnel, tu préfères le festival ou le club ? Je ne te demande pas de choisir entre Nuit Sonore et le sucre, mais c'est des contextes en fait d'expérience, de fête assez différents.
Oui, c'est des contextes de fête, mais finalement, avant qu'il y ait le sucre, on avait les échos sonores, qui étaient, donc on en a fait 100, qui pouvaient être aussi bien une soirée dance floor qu'un concert, parce qu'un concert, ça peut être une belle fête aussi. Enfin, moi, une des plus belles fêtes que j'ai fait, c'était un concert d'Ariel Pink, le soir de la mort de Michael Jackson, où des gars, j'étais dans une friche, et on a fini Royal Pink mixait du Michael Jackson. Et ça a été une teuf incroyable. Et finalement, la fête techno, elle est très forte de sens, mais il y a plein d'autres fêtes qui sont importantes et qui font partie d'Artifarty. Et le concert est une fête qui est au cœur aussi, la fête rock, qui fait partie aussi de cette identité, cette communion-là. Parce que finalement, le sens de la fête, c'est la communion. Et finalement, le concert est pour moi quelque chose aussi de l'ordre de la communion et très important. Mais aujourd'hui, j'aime bien le sucre parce que finalement, c'est devenu notre laboratoire. J'ai passé des moments incroyables. On a de la proximité avec le public, avec les artistes. On peut faire des choses, on peut essayer des choses. Du sonore, c'est un moment... Voilà, c'est le grand moment, c'est le grand soir. Mais finalement, il y a des prises de risque aussi qui sont faites à Nusor que je ne pourrais pas faire au sucre. Il y a une façon de scénariser la fête qui est complètement différente. Et Nuit Sonore, c'est un vrai scénario. Les scénarios, c'est les horaires, c'est la manière dont on place les scènes, à quelle hauteur. Aujourd'hui, on se prend la tête pour savoir si on met une scène à 30 cm ou à 60 cm, parce que ça joue énormément. Ça a l'air d'un détail pour vous, mais c'est hyper important parce que c'est la proximité qui va se passer avec le public. Et c'est, voilà, on en est à ce niveau de... Et je pense que la grande spécificité de la fête Nuit Sonore, c'est le line-up. Aujourd'hui, je dirais que nous... depuis 20 ans, ce qui est important pour nous, c'est que chaque artiste qui joue après un autre sache qui est le gars avant qui il joue et qu'est-ce que ça représente. Voilà, sur Nuit Sonore, on va pouvoir programmer 5 ou 6 artistes d'affilée. Donc on peut avoir expliqué quelque chose. Je pense qu'une des plus belles réussites, notamment là-dedans, c'est quand je fais jouer Pharaoh Sanders et Floating Points ensemble. Et qu'on a des kids qui arrivent dans une friche industrielle, qui arrivent à 3000 devant Pharaoh Sanders et qui, finalement, on leur montre quel est le lien avec la scène électronique actuelle. Parce qu'ils viennent voir Floating Points et comprennent que son travail, finalement, est inspiré. Et quelques années après, ils font cet album Promise en plus. Quoi. Donc, ouais, c'est de raconter des histoires. Quoi. Finalement, c'est un moment très excitant parce que c'est à la fois on scénarise la fête et on raconte plein d'histoires.
On raconte des histoires et du coup qui sont parfois porteuses de sens. Et tout à l'heure tu parlais des révolutions comme ça musicales qui se sont succédées. Tu citais l'Afrique du Sud, mais dans le monde entier finalement ces révolutions qui sont arrivées. Est-ce que là c'est, attention, une question à 1 000 euros et ça pourrait être le sujet de ta thèse. Est-ce que la fête est un vecteur de changement social?
Bien sûr, elle est un vecteur en tout cas et on le voit dans ces temps de crise. C'est un moment où la population a besoin de se lâcher déjà. Il y a des transformations. Quand on voit comment la scène électronique s'est investie dans la politique ces dernières années, ce qu'il faut savoir, que la musique électronique, donc il n'y a pas de parole, on parle de musique. Et ce qu'on reprochait beaucoup dans les années 2000 aux DJ et tout, c'est qu'il n'y avait pas de parole politique, puisqu'il n'y avait pas... Il y avait une parole esthétique. Qui était politique finalement de dire bon voilà, on veut exister. C'était le premier step. Le deuxième step, c'est de dire mais comment vous vous positionnez? Et quand on voit ce qui s'est passé en Ukraine, Bassiani, Maïdan, la place Maïdan, la rêve place Maïdan, on voit qu'il y a une prise de parole. L'idée de safe place, de défense des communautés, de la représentativité des genres. Et finalement, on s'aperçoit. Aujourd'hui, en tout cas, les artistes ont vraiment un discours politique et vecteur de transformation sociale parce que c'est un passage obligé dans la jeunesse aujourd'hui. C'est générationnellement, je vois comment la jeunesse s'approprie la question du club. C'est pas du tout la même chose que de ma génération. Ma génération, c'est on nous donnait à écouter de la merde et c'était vraiment pour vendre de l'alcool. Aujourd'hui, on va écouter telle personne dans tel lieu, dans telle ville. Enfin, le clubbing fait partie aussi du tourisme de ville. Quoi. Quand tu vas dans une ville, tu regardes la programmation de ce qui se passe. Et la nouvelle génération, aujourd'hui, c'est devenu un passage initiatique. Tout jeune qui se respecte, à un moment, va aller voir quelque chose, et voit le dance floor comme quelque chose ça fait partie de la culture. Et finalement, c'est là où ça a changé la sociologie de la société.
Alors, qu'est-ce qui, pour toi, relie fondamentalement un concert d'Ariel Pink, un set de Laurent Garnier au Petit Matin à Nuit Sonore, et une raclette entre potes.
La raclette, c'est de se dire aussi, et à Artifarty, on sait très vite, hein, on est des bons mangeurs, et on s'est vite intéressé à la question de la gastronomie. Pourquoi ? Parce que finalement, cette convivialité, je dirais que musique et bouffe sont deux langages universels, et qui permettent justement de communiquer des passerelles. Nous, ce qu'on cherche à faire finalement, c'est de trouver des passages. Des passages pour que les choses, elles communiquent. Entre artistes, pour expliquer qu'un Far West Under jusqu'à de la techno, ça a un sens. Il y a une histoire, il se passe quelque chose. En Colombie, dans les années 90, il y a des mecs qui faisaient des choses qui avaient une incidence et que le reggaeton, finalement, vient du reggae, vient de tout ça. C'est ces passerelles-là et finalement, la bouffe est une bonne passerelle pour parler de musique parce que c'est deux choses qui sont complémentaires et qui ont une approche assez, parfois assez similaire. Et il y a cet universalisme, en tout cas, de la convivialité qu'on peut noter.
Qu'est-ce qui peut tuer la fête ? Et peut-être de façon plus spécifique, qu'est-ce qui pourrait tuer Nuit Sodin ?
On s'est souvent posé la question parce que ça a été beaucoup de pression pour notamment Damien Béguet, qui est le président de l'association, donc qui est la personne qui a toutes les responsabilités face au festival. C'est la question de la sécurité. Les attentats ont failli nous tuer. On peut être tué par une forme de crise. Le Covid nous a tués. Donc finalement... tout ce qui peut réunir les gens, ce qui essaye de lutter contre le fait que les gens se réunissent et communient, peut nous tuer. Donc, les politiques extrêmes peuvent nous tuer. On est un objet fragile. Et c'est vrai que le Covid nous l'a montré très fortement. On a un objet fragile parce que, vu qu'effectivement, on est vecteur de changements sociologiques aussi, on voit que le politique peut aussi décider que... la politique répressive peut nous interdire d'ouvrir. Donc on s'aperçoit que finalement, on a cette fragilité qui est liée un peu à ces bulles de liberté et qui font avancer la société, qui peuvent être entravées, bien entendu.
Qu'est-ce que c'est au final que le sens de la fête des nuits sonores ? Est-ce que ton sens de la fête personnelle, intime, se confond totalement avec, ou est-ce qu'il y a une distinction entre toi, ton sens de la fête, et celui du festival des Nuits Sonores ?
Jacques, Nuits Sonores, c'est le sens de les fêtes. Et je dirais que c'est ça qui nous définit. C'est que finalement, c'est pas en sens unique. On essaye d'amener ce côté qui est l'ADN du festival, ce panorama de fêtes. Finalement, une fête, ça peut être dans la rue, ça peut être à l'opéra, ça peut être devant un concert. Nous, on veut amener plein de scénarios d'expérience. Mais sinon, souvent, je le décris comme un festival. C'est un festival qui se prend par le menu. Parce que finalement, dans Nuit Sonore, il y a aussi Lyon qui fait partie du festival. Tu peux rentrer et sortir du festival. On est ces festivals urbains où on ne cloisonne pas les gens dans une seule fête. La fête, ils la font souvent après le festival, en after, dans leurs appartements aussi. Et c'est ce qui va les marquer. Finalement, Nuit Sonore, c'est une expérience d'une ville qui est de scénarios, de différentes fêtes. Et tu prends ce que tu veux. Tu peux aller voir Far West Under, après aller voir un truc de techno, puis faire une after chez toi, puis aller au restaurant le lendemain midi avec tes potes. C'est ce qui fonctionne, c'est amener une vision de parcours et que finalement, chacun crée son propre parcours.
Donc le sens de la fête des Nuits Sonores, ce sont des fêtes plurielles qui font vibrer la ville. Et alors du coup, pour toi, d'un point de vue intime, le sens de la fête, c'est quoi ?
Alors moi, c'est vrai que la fête, personnellement, je l'aime improvisée. C'est-à-dire, j'aime quand elle n'a pas été forcément préparée. J'aime ces moments un peu impromptus, ces moments un peu des découvertes aussi. La fête, c'est finalement une communion de la découverte. C'est plein de choses, quoi. Donc, personnellement, je resterais sur cette idée de communion un peu qui nous permet de nous identifier et de dire qui on est, quoi.
Le sens de la fête est un podcast de Nick La Radio, écrit et animé par Christophe Payet. Réalisation, Malo Williams.
Et alors, pour conclure, si tu devais choisir qu'une seule track, le morceau ultime pour faire la fête. Alors, exceptionnellement, t'as le droit de donner deux morceaux, ton morceau personnel et un morceau qui incarnerait les nuits sonores.
Personnellement, moi, je dirais que c'est plutôt Square Pusher parce qu'il y a des trucs... Plutôt le Square Pusher première période. Alors, j'ai pas l'album Feed Misery Ward, qui est pour moi un album de fête un peu jungle, quoi. J'aime la fête jungle, ça, c'est un peu mon péché mignon. Qu'est-ce qui représenterait Nuit Sonore ? C'est compliqué. C'est une bande-son assez continue. Il n'y a pas de morceau assez fédérateur de toutes les multiplicités qu'on a créées au fur et à mesure des... Enfin, voilà, ça n'existe pas.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.